Écho d'ici, écho d'ailleurs. Anne Verdaguet.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre l'économie. Ils ont une dizaine de jours pour sauver le climat. À Glasgow, les chefs d'État et de gouvernement vont afficher leurs nouvelles ambitions pour la planète à partir de dimanche à l'occasion de la COP26. L'occasion de faire un bilan sur les objectifs climatiques. Où en est-on? Comment faire coïncider ces objectifs avec la croissance économique et la reprise actuelle? Comment les entreprises parviennent-elles à s'adapter à cette transition climatique? La taxe carbone est-elle efficace? Voici les quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre avec notre invité aujourd'hui, Christian de Pertuis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, professeur, auteur de plusieurs livres, mais surtout fondateur de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. On va donc parler avec vous de ces questions autour de l'économie et du climat, mais aussi avec nos correspondants et nos reportages. Christian de Pertuis, vous allez parler avec nous d'un sujet qui vous passionne, sur lequel vous travaillez depuis plus de 15 ans, la convergence entre l'urgence climatique et l'économie. Alors peut-être que l'on peut faire déjà avec vous un premier petit bilan depuis la signature des accords de Paris. Allez, c'était il y a déjà un petit moment, c'était en 2015 si mes souvenirs sont bons, la transition vers une économie et des énergies plus propres. On en est où aujourd'hui, Christian de Pertuis?
Alors depuis 2014, ça fait quand même maintenant 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan économique en termes de coûts. C'est-à-dire que on a une baisse très rapide des coûts de production de l'énergie renouvelable, baisse très rapide du coût de stockage de l'électricité et baisse du coût de la gestion intelligente des réseaux avec l'Internet et toutes les technologies numériques. Donc ça, c'est le côté positif qui élargit les possibilités pour accélérer la transition énergétique. Et je rappelle que dans le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre, 70% c'est le CO2 qui est émis lors de la combustion des énergies fossiles. Donc ce point est vraiment très important sur le plan économique.
Pour que l'on comprenne bien tous les mécanismes qui sont à l'œuvre, quelles sont les transformations majeures qui sont à opérer pour les 10 années à venir, qui sont les 10 années les plus cruciales qui vont arriver?
Il y a deux transformations majeures. La première concerne le système énergétique, c'est ce qu'on appelle couramment la transition énergétique. Il faut basculer d'un système énergétique où dans le monde aujourd'hui, trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, fournissent 80% de l'énergie utilisée dans le monde. Et il faut aller très vite vers une situation dans laquelle le poids de ces énergies fossiles devient résiduel. Et donc il faut trouver d'autres sources d'énergie qui ne sont pas carbonées, principalement l'énergie solaire, l'énergie éolienne, offshore ou onshore, l'énergie issue de la biomasse lorsque la biomasse est renouvelable, hein, le bois ou éventuellement d'autres matières ligneuses ou organiques, et le cas échéant, un peu de nucléaire pour compléter le tout, si vous voulez. Bon. Et cette révolution énergétique, elle implique donc à la fois de l'investissement dans les nouveaux systèmes bas carbone, pour produire, mais également pour stocker et pour transformer l'énergie, mais elle implique également de désinvestir des énergies fossiles très rapidement. Et on voit bien que dans le monde, la grande difficulté aujourd'hui, et la hausse du prix de l'énergie nous le montre tous les jours, c'est de sortir rapidement de notre dépendance à l'énergie fossile. Vous voyez que la reprise économique qui intervient maintenant après un peu plus d'un an et demi de stagnation économique due à la pandémie du Covid génère des besoins en énergie supplémentaire et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On fait appel aux énergies fossiles et donc le prix de ces énergies augmente très rapidement. Et on a donc un problème de temps, si vous voulez. Il faut sortir très vite des énergies fossiles.
Oui, un problème de temps et aussi l'intervention des États qui semble décisive pour ces investissements et ce désinvestissement dont vous parliez à l'instant. Christian de Pertuis, je vous propose d'ores et déjà de nous rendre en Australie où la lutte contre le réchauffement climatique ne va pas de soi, loin de là. J'ai joint hier par téléphone notre correspondant, Grégory Pless, qui nous en dit un peu plus. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour Anne.
Vous êtes notre correspondant en Australie. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé qu'il se rendra finalement au sommet de la COP26. Une décision qui intervient après plusieurs semaines d'hésitation. Il vient par ailleurs d'annoncer qu'il engageait son pays à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.
Effectivement, c'était l'un des rares pays membres du G20 qui n'avait pas encore pris un engagement de ce type. Il intervient après des semaines de tractations assez difficiles au sein de la majorité de Scott Morrison, qui est composée en fait de deux partis. Son parti, le Parti libéral, qui reconnaît un peu timidement la réalité du changement climatique, mais aussi le parti des Nationals, un parti de ruraux qui, lui, en revanche, est ouvertement climato-sceptique. Ils ont finalement réussi à se mettre d'accord, d'où l'annonce du jour, effectivement, sur l'engagement vers la neutralité carbone, mais ça reste encore un engagement assez timide et surtout un engagement dont on a du mal encore un peu à comprendre comment il va pouvoir être mis en musique, dans la mesure où Scott Morrison a précisé qu'il ne renonçait pas à l'extraction des énergies fossiles, donc le charbon, le gaz naturel. Il expliquait que la vie des Australiens n'allait pas coûter plus cher, qu'il n'y aurait aucune nouvelle taxe. Bref, la neutralité carbone sans aucune conséquence sur le monde économique ou sur la vie de tous les jours, ça semble un peu difficile à croire.
Oui, alors l'Australie qui est un acteur important, il faut le rappeler, du réchauffement climatique, puisque c'est le plus grand exportateur mondial de charbon sur lequel repose une grande partie de sa production électrique.
Oui, tout à fait. Le charbon, c'est à peu près 60% du mix énergétique en Australie, une proportion qui a un petit peu baissé au fil des années, mais qui reste effectivement extrêmement importante. Comme vous l'avez dit, le charbon, c'est l'Australie qui en est le premier exportateur mondial, mais il exporte aussi, c'est le premier exportateur mondial également de gaz naturel, par exemple. L'Australie exporte également du pétrole. Et donc, effectivement, les enjeux de réchauffement climatique et autres, ça pose un vrai problème à l'Australie et à son modèle économique qui repose encore très fortement sur l'extraction de ce type de matériaux.
Grégory Pless, le géant minier Rio Tinto a lui annoncé vouloir diviser par deux ses émissions carbone d'ici 2030, à l'image d'autres groupes miniers importants dans le pays.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu paradoxal en Australie, c'est que ces grandes entreprises qui vivent directement de l'exploitation du charbon et d'autres minerais vont plus loin de leur propre initiative sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous venez d'évoquer Rio Tinto. Il y a quelques semaines, c'est également le groupe BHP Billiton qui a fait des annonces un peu similaires, légèrement moins ambitieuses en l'occurrence, et promettait de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et puis, il faut aussi mentionner le groupe Fortescue Metals Group, qui lui est plutôt spécialisé sur l'exploitation du minerai de fer et qui lui a annoncé la neutralité carbone totale d'ici à 2040. C'est l'engagement le plus ambitieux au sein de ce secteur économique. Et il faut également préciser que son propriétaire, Andrew Forrest, qui est le deuxième homme le plus riche d'Australie, est par ailleurs personnellement très engagé sur cette question de la lutte contre le changement climatique. Rien que cette année, par exemple, il a investi plus de 600 millions de dollars américains pour le développement de ce qu'on appelle l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable. Il a par ailleurs des milliers d'employés au sein de son groupe qui travaillent sur le développement de ces nouvelles technologies.
Merci beaucoup Grégory Pless, notre correspondant en Australie. Je reviens vers vous Christian de Pertuis. Comment on peut faire aujourd'hui pour empêcher finalement l'Australie d'utiliser ses ressources en charbon ?
Alors, l'accord de Paris n'empêche personne de faire ce genre de choses, et c'est bien la faiblesse de l'accord de Paris, qui repose sur des contributions nationales volontaires. Et donc, la contribution nationale de l'Australie est faite de telle sorte que le pays peut continuer pendant assez longtemps à extraire du charbon et surtout l'exporter, hein, puisque le charbon qui est exporté va émettre en dehors des frontières de l'Australie. L'arrêt de l'exploitation et de l'exportation du charbon va dépendre d'une petite partie de l'Australie, mais surtout une grande partie des clients de l'Australie. Le premier client de l'Australie, c'est la Chine, qui émet du charbon pour fabriquer de l'électricité. Je fais une petite correction au passage. L'Australie n'est pas la première exportatrice mondiale de gaz naturel. C'est le Qatar, mais enfin, c'est pas grave. Mais c'est vrai que l'Australie développe aussi de l'exportation de gaz naturel. Alors, on voit bien que, à travers le cas de l'Australie, On met le projecteur sur une catégorie de produits et d'économies qui sont les économies dont une partie importante repose sur l'extraction et l'exportation d'énergie fossile. Donc vous avez l'Australie, vous avez la Russie, vous avez le Canada, vous avez évidemment les pays du Golfe, vous avez le Nigeria en Afrique. Ces pays, jusqu'à présent, ont toujours eu une place tout à fait curieuse dans les négociations climatiques internationales, puisque ils ont été une force d'obstruction un peu silencieuse qui ralentit en permanence le processus de négociation, mais qui ne sont pas véritablement intégrés dans la négociation internationale. Et je pense que cet angle mort est extrêmement révélateur de la faiblesse de l'accord de Paris, qui n'a pas les moyens aujourd'hui de contraindre suffisamment à la reconversion de ces économies. Cette reconversion va être coûteuse. Il faut être clair. Si on veut que l'Australie devienne neutre sur le plan climatique, évidemment, il faut reconvertir massivement une partie de son économie et évidemment, il y a quelqu'un qui va payer. Mmh. Et toute la question, c'est de savoir qui va payer et comment. On peut faire payer les travailleurs en les licenciant. C'est une version très dure de la transition énergétique. On peut imaginer une taxe carbone qui est redistribuée pour amortir le choc. On peut imaginer des politiques beaucoup plus proactives de reconversion. Et pour l'économiste et pour les travaux qu'on mène à la chaire économie du climat, c'est ce type d'études que nous menons. Il faut absolument trouver les moyens de reconversion des économies qui sont fortement dépendantes et tributaires des énergies fossiles aujourd'hui. C'est la même chose pour les entreprises. Mmh.
Ce désinvestissement, Christian de Pertuis, dont vous parliez tout à l'heure, qui est la question finalement de sortir de ces énergies fossiles, est-ce qu'on a une idée du coût de ce désinvestissement ?
Il est très mal provisionné et il est très mal évalué parce que c'est beaucoup plus facile d'ajouter les milliards à des milliards lorsqu'on calcule par exemple ce que ça va coûter de produire de l'hydrogène vert dont il était question à l'instant de calculer ce que va coûter par exemple la reconversion des usines qui fabriquent aujourd'hui des moteurs thermiques et qui demain vont devoir fermer ou être remplacées par des usines qui fabriquent des batteries et des systèmes qui permettent de faire bouger les véhicules avec la traction électrique. Pour ma part, je pense que le coût du désinvestissement est supérieur au coût de l'investissement additionnel en capital. Et surtout, le point très important, il est double. Le premier, c'est que ce coût n'est pas une dépense supplémentaire qui élargit le capital productif. Donc, ce n'est pas une dépense qui va accroître la capacité d'offre. Hein, c'est une dépense qui va très clairement ralentir, donc freiner la croissance économique. C'est pas neutre pour la croissance. C'est pas neutre de fermer des usines. C'est une évidence. Bon. Le deuxième point qui est très important, c'est que le coût du désinvestissement est totalement différent suivant la catégorie de pays à laquelle on réfléchit. Dans les pays les moins avancés, notamment dans les pays au sud du Sahara, en Afrique, ou les pays au sud de l'Asie, on n'a pas des économies qui sont encombrées comme les économies développées par des infrastructures énergétiques très fortement dépendantes des fossiles. Et donc, dans ces pays, la transition énergétique va au contraire représenter surtout de l'investissement dans des nouveaux moyens de production décarbonés et très peu de désinvestissement puisqu'ils n'ont pas toutes ces infrastructures liées aux énergies fossiles. Donc, dans les pays moins avancés, si on parvient à allouer suffisamment de ressources et diriger suffisamment de ressources dans ces pays vers l'énergie bas carbone, on va au contraire accroître la capacité de développement à court terme. Donc c'est positif pour la croissance. Dans les vieux pays industrialisés comme les nôtres ou dans les pays fortement tributaires des énergies fossiles comme l'Australie et tous les autres grands producteurs et exportateurs d'énergie fossile, là, le désinvestissement, il est très coûteux. Et dans, par exemple, l'économie européenne ou française, le choc conjugué de l'investissement vers le bas carbone et du désinvestissement, à mes yeux, n'est pas clair en termes de solde sur la croissance. Est-ce que ça fera plus ou moins de croissance? Tout dépendra de la capacité, de l'habileté à laquelle on va être capable de restructurer les économies, de déplacer du capital. Donc déplacer du capital financier, ça c'est assez facile, tout le monde sait le faire. Ce qui va être beaucoup plus difficile, c'est quoi? C'est de déplacer le capital physique et surtout le capital humain, les travailleurs, hein, la reconversion professionnelle, car ce ne sont pas les mêmes compétences compétences dont on a besoin dans l'économie bas carbone que dans l'économie carbonée des fossiles d'hier. Ça, cette reconversion professionnelle, elle est très importante et à mes yeux, elle est très mal provisionnée dans les plans de transition vers le bas carbone, y compris en Europe, dans le cadre du Green Deal.
Alors, on va parler du cas de la France. Emmanuel Macron l'a annoncé le 12 octobre dernier. Il veut réindustrialiser la France et il faut, dit-il, massivement investir pour aider à décarboner l'industrie. Ce que vous venez d'évoquer, Christian de Pertuis. Du côté de la vallée du Rhône, les choses bougent. Lyon est dirigé, on le sait, par des écologistes depuis un peu plus d'un an et sa vallée de la chimie, la plateforme industrielle de la ville, veut attirer des entreprises adeptes de la chimie verte, des énergies renouvelables et de l'environnement. On écoute le reportage signé Alexis Bédu.
En bord de Rhône, entouré par la raffinerie Total d'un côté et une usine de plastique de l'autre, des tractopelles brassent des tonnes de terre. Depuis 2 ans, la plateforme Terre en Vie s'est installée là, en plein cœur de la vallée de la chimie. Sa spécialité, la valorisation en circuit court des terres excavées provenant de toute la métropole.
Ce que nous avons en face de nous, ce sont ces fameuses terres excavées qui proviennent de la métropole de Lyon.
Vincent Desforges est directeur de Terre en Vie.
Ce sont ces matériaux que nous traitons par voie biologique directement sur notre plateforme. Donc on va traiter les hydrocarbures contenus dans les sols. Une fois que les matériaux sont traités, les terres que vous voyez en face de vous repartent en cimenterie pour être valorisées.
Ces dernières années, dans cette zone, 60 hectares de friches ont été affectés à des projets d'énergie renouvelable ou étiquetés vertueux pour l'environnement. Alexandra Mathiolon est directrice générale de Serfim, société de dépollution des sols à l'origine de Terre en Vie.
L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce foncier qui est stratégique différemment et d'être à proximité et d'en faire une utilisation dans une logique d'économie circulaire et de se mettre finalement autour de la table avec tous les partenaires, que ce soit des industriels, des partenaires publics, des techniques, j'allais dire, comme nous, pour trouver des solutions et faire la différence.
Les émissions industrielles du territoire représentent 26% des émissions de gaz à effet de serre du Grand Lyon. Bruno Bernard est à la tête de la métropole lyonnaise depuis juin 2020. Le message aux industriels est limpide. Des efforts doivent être faits pour être plus propres.
Les industriels sont prêts. Ils sont prêts à transformer leur activité pour qu'elle soit compatible avec les enjeux de décarbonation. Pour des raisons économiques, ça enlève de l'incertitude de travailler là-dessus puisque le coût du carbone va augmenter. Pour des questions aussi de recrutement social, parce que les salariés, notamment les jeunes aujourd'hui, ne veulent plus aller travailler si les entreprises ne sont pas exemplaires sur ces sujets. Il faut qu'on change la plateforme de la vallée de la chimie.
La vallée de la chimie, cela représente 50 000 emplois et l'idée de la métropole, c'est de ne pas envoyer ces industries ailleurs, mais de les verdir.
Voilà, ça c'est la pile qui sort de la salle blanche.
Ah, ça c'est la pile, là.
On voit pas bien, mais là, il y a vraiment un empilement et c'est beaucoup, beaucoup de matière, des composants qui sont empilés.
L'entreprise Symbio fabrique des piles à hydrogène destinées aux véhicules de transport électrique. C'est le cas notamment de certains bus de la métropole lyonnaise. Le marché est en pleine expansion, explique le directeur général Philippe Rosier. Symbio ouvrira prochainement une toute nouvelle usine sur la vallée de la chimie.
Dès le départ, notre usine sera certifiée neutre en carbone, neutre en émissions CO2. Nous allons avoir des panneaux photovoltaïques sur les toits, un système de récupération d'énergie. Nous serons connectés à des fabrications d'hydrogène par électrolyse, donc d'hydrogène renouvelable. Les industriels de la vallée de la chimie ont pris aussi des engagements forts de réduction de leurs émissions. Donc on viendra apporter notre contribution à cette dynamique.
Parmi leurs futurs voisins, l'usine de chimie Arkema a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 60%. La raffinerie Total a investi 10 millions d'euros en 3 ans pour améliorer son efficacité énergétique. Mais ces industries pourraient aller encore plus loin, selon Martin Durigneux, président de l'association Anciela, qui accompagne des initiatives associatives et entrepreneuriales pour la transition écologique.
Le « c'est déjà ça ». C'est pas le bon discours aujourd'hui. On a 10 ans pour accomplir la transition et ces industriels tiennent beaucoup, c'est déjà ça. C'est déjà ça si on a réduit tel ou tel impact qui est minime. Je pense qu'il y a une vraie nécessité que ces entreprises bougent Il y en a qui essayent vraiment. Je pense maintenant que c'est une vraie transformation civilisationnelle qu'on est en train de vivre et qu'on peut pas changer comme ça en claquant des doigts. Il ne s'agit pas d'optimiser un tableau de bord, quoi. Il s'agit de transformer réellement notre économie et de changer notre modèle de production-consommation.
La réindustrialisation verte avance, mais tous ces acteurs de la transition le disent. Gagner la bataille de Lyon ne sera pas suffisant. Elle doit être gagnée au niveau mondial et pour cela, les solutions et les pratiques doivent être mises en commun.
Christian de Pertuis, ce reportage signé Alexis Bédu à Lyon. Est-ce que pour vous, comme il a été dit dans le reportage, les industriels sont prêts aujourd'hui à cette transition écologique ?
Vous savez, c'est difficile de dire les industriels comme s'il n'y avait qu'un industriel et un modèle économique de l'industrie. La situation est évidemment contrastée suivant les secteurs, suivant les lieux, suivant les industries. Ce qui est complètement différent aujourd'hui d'il y a 10 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça transparaît très bien à travers le reportage très passionnant qu'on vient d'écouter, c'est que il y a de plus en plus de solutions techniques qui sont aujourd'hui accessibles parce que les coûts ont beaucoup baissé. Pourquoi est-ce que, par exemple, Symbio peut construire des systèmes bas carbone dans de l'hydrogène? Philippe Rosier l'a très bien expliqué. C'est parce qu'on peut utiliser maintenant des panneaux photovoltaïques, des systèmes de stockage qui sont devenus beaucoup plus compétitifs qu'il y a encore 10 ans. Donc ça, c'est le côté très positif et je ne doute pas que partout dans le monde industriel, on voit des solutions émerger. Elles ne sont pas toutes encore disponibles. Par exemple, si on prend dans l'industrie dans le monde, les deux principaux secteurs qui sont les plus émetteurs de CO2, c'est un, la production d'acier primaire, deux, la production de ciment. Sur la production d'acier primaire, les hauts fourneaux, aujourd'hui, on teste les procédés zéro carbone, mais on ne les a pas encore développés à l'échelle industrielle. Le premier pilote industriel qui fonctionne à partir de l'hydrogène vert, il est en cours de constitution en Suède. Mais on est loin d'avoir encore cette solution à l'échelle très large. Donc il faut accélérer cette décarbonation de l'industrie. Il faut investir beaucoup dans la recherche et développement. Et on voit bien que l'un des leviers qui sera très important pour décarboner l'industrie, ça a été dit dans votre rapport, du reste, c'est l'introduction de l'hydrogène comme de l'hydrogène vert, attention, pas de l'hydrogène sous-produit des hydrocarbures ou du charbon, mais ce sera l'hydrogène vert, car l'hydrogène vert va avoir deux particularités. La première, c'est que il va permettre de beaucoup mieux intégrer les énergies renouvelables dans les chaînes de production et de distribution, notamment en facilitant la question du stockage intersaisonnier. Aujourd'hui, l'intermittence à court terme, on sait à peu près la gérer avec des batteries. Par contre, on ne sait pas gérer l'intermittence entre l'été et l'hiver, qui est dépendante du reste du climat et des systèmes de climatisation ou de chauffage. L'hydrogène permet cette gestion. Et puis l'hydrogène vert, il a cette particularité extrêmement importante, que ce sera un vecteur de décarbonation de processus industriels qu'on ne sait pas aujourd'hui décarboner sans ce support énergétique. Par exemple, l'acier primaire qui est de loin aujourd'hui le secteur avec le ciment qui émet le plus de CO2 dans le monde. Et on a besoin d'acier primaire si on veut développer rapidement les pays les moins avancés situés au sud du Sahara en Afrique ou au sud de l'Asie et ailleurs, si vous voulez. Donc pour moi, cette révolution, elle est très importante. Mais elle est loin d'être faite au rythme qui est requis. Il faut pour cela plus de recherche et développement, plus de coopération entre les chercheurs, les industriels entre eux, plus de soutien public. Et puis je crois qu'il y a un levier dont on n'a pas parlé encore, qui est en filigrane dans ce qu'a dit le président de la métropole de Lyon, qui a dit de toute façon le coût du carbone va augmenter.
Voilà. Alors j'allais y venir justement, Christian de Pertuis, ce coût du carbone, est-ce que c'est toujours aujourd'hui un levier important? On sait que ça a eu une incidence, notamment la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on peut toujours compter?
Bah écoutez, en tout cas, aujourd'hui, la région du monde qui réduit le plus rapidement ses émissions de CO2, c'est l'Europe de l'Ouest. Bon, c'est pas un hasard, hein, le prix du quota de CO2 sur le marché européen du CO2, il est un peu supérieur à 60 euros la tonne.
Si vous regardez les courbes, vous verrez que l'Union européenne a commencé à amorcer véritablement sa baisse des émissions de CO2 en 2005, année d'introduction du système des quotas de CO2. Donc empiriquement, ex post, on voit que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que on est bloqué dans la tarification du carbone? Principalement parce que on ne sait pas gérer les impacts distributifs. Lorsqu'on met en place une tarification carbone, on peut le faire, on peut raisonner à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. On va commencer par raisonner à l'échelle nationale et puis si on a le temps, on fera le même raisonnement à l'échelle internationale. À l'échelle nationale, par exemple en France, et là je suis bien placé pour traiter cette question puisque j'y ai contribué directement, lorsqu'on installe une taxe carbone sur les consommations d'énergie, on va peser en proportion plus sur les bas revenus. Ça va coûter plus cher aux riches, mais ça va coûter beaucoup plus cher en proportion de leurs revenus aux bas revenus. Donc ça veut dire tout simplement que si on veut être juste, faire une transition énergétique juste, il faut redistribuer le produit de cette taxe carbone vers les ménages à faible revenu et vers les ménages qui sont les plus éloignés des centres-villes. Si on n'est pas capable de faire cette redistribution, on va avoir un effet boomerang, qui est l'effet boomerang qui a été observé au début de ce quinquennat au moment des Gilets jaunes, puisqu'on avait décidé d'accélérer la trajectoire carbone sans aucune redistribution massive vers les ménages à bas revenus. Donc vous voyez que le problème de la tarification carbone, c'est pas de savoir est-ce que c'est efficace ou pas. Bien évidemment, c'est efficace sur le plan économique parce que ça renchérit le coût d'usage des fossiles dont on veut se débarrasser. Et par ailleurs, ça va avoir un impact très important du côté de l'offre. Ça va inciter tous les industriels à quitter les investissements carbonés pour aller vers le bas carbone. Mais ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est la redistribution. Je fais le même raisonnement à l'échelle internationale. Et je vois quoi ? Je rappelle d'abord que l'article 6 de l'accord de Paris prévoit explicitement la possibilité d'aller plus vite dans la transition bas carbone en mettant en place une tarification carbone à l'échelle internationale. C'est l'article sur lequel on a fait le moins de progrès depuis l'adoption de l'accord de Paris fin 2014. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas gérer les impacts distributifs. C'est quoi les impacts distributifs ? En proportion de leur PIB, de la richesse qu'ils créent, les pays pauvres émettent plus de CO2 que les pays riches. Donc si on fait une tarification carbone internationale en redistribuant le produit de cette taxe vers les pays les plus pauvres, par exemple en disant tout simplement une redistribution au prorata en fonction du nombre de personnes, on va accroître la ressource économique dirigée vers les pays pauvres et on aura beaucoup plus de facilité à opérer ce fameux transfert de 100 milliards de dollars auquel on s'est engagé en 2014 et en réalité dès avant l'accord de Paris et au moment de l'accord de Copenhague, on arrivera beaucoup plus facilement parce qu'on aura créé une ressource supplémentaire. Oui. Donc le problème de la tarification carbone, c'est pas de savoir si c'est efficace ou pas pour décarboner, c'est efficace. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut redistribuer correctement le produit de la tarification carbone pour assurer l'équité de la transition bas carbone.
Alors justement sur la question de cette taxe carbone, Benoît Leguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, a lui aussi sa petite idée. Il a accordé un entretien à Pauline Glaise, on l'écoute.
Benoît Leguet, bonjour.
Bonjour.
Benoît Leguet, votre institut vient de publier les comptes mondiaux du carbone pour cette année 2021. Est-ce que ces prix du carbone sont toujours efficaces ?
Alors, il y a beaucoup de disparités puisque effectivement, tout dépend des contextes nationaux. Les prix s'étalent en fait entre 1 dollar US et 142 dollars, voilà, dans ce qu'on a recensé au 1er octobre 2021. Mais il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que à peu près la moitié des émissions qui sont soumises à une tarification du carbone sont soumises à un prix inférieur à 10 dollars américains, c'est-à-dire moins de 8 euros. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même manifestement trop faible pour avoir un effet incitatif. Et donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. Remonter le niveau de prix, c'est très facile à dire, bien assis depuis une chaise, c'est un petit peu plus compliqué dans la vraie vie, puisque qui dit remonter le niveau de prix dit aussi qu'il y a un impact sur les entreprises et sur les ménages.
Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières proposé par la Commission européenne, est-ce qu'il peut pousser vers une plus grande harmonie, en tout cas les prix du carbone mondiaux vers le haut ?
C'est ce qu'espère la Commission européenne, qu'en tout cas un tel mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, s'il est mis en place, puisse inciter les différents États qui n'ont pas encore mis en place une tarification du carbone à le faire. On peut en tout cas espérer que ça soit un des résultats positifs. Cela dit, il n'y a pas forcément besoin, c'est plus une menace que la Commission européenne peut brandir, puisque normalement, l'intérêt bien compris des différents États est de mettre en place une tarification du carbone afin de pouvoir, disons, piloter la décarbonation de leur économie et de s'assurer qu'ils restent compétitifs dans une économie mondiale qui pourrait, il risque, va-t-on dire, de se décarboner.
Un autre enjeu de ce prix carbone, on l'a vu, il n'est pas toujours efficace et en même temps, on se rend compte que son envolée en Europe participe à la flambée du prix de l'énergie. Les gouvernements européens s'arrachent les cheveux en ce moment sur cette question. Comment on résout cette équation qui doit allier obligations climatiques et acceptabilité pour la population ?
Alors, c'est une très, très très bonne question, en fait. Effectivement, avec la hausse des prix de l'énergie, ça, on recommence à parler de niveau de prix de l'énergie et donc de taxes sur l'énergie, puisque vous savez qu'une composante non négligeable du prix de l'énergie, ce sont les taxes. Et donc la question, c'est que fait l'État des recettes additionnelles générées par la tarification du carbone ? En gros, qu'est-ce qu'on fait ? L'État vous prélève X et l'État reverse Y, avec X peut-être pas trop loin de Y, mais pour faire quoi ? On avait vu finalement que les choix dans les différents pays avaient été extrêmement divers. Certains pays se servaient des revenus pour financer la transition bas carbone, c'est-à-dire financer des infrastructures bas carbone, des infrastructures de mobilité propre, faciliter l'accès des ménages aux voitures propres. D'autres pays s'en servaient pour baisser d'autres impôts. Donc finalement, il y a des choix très différents. Et finalement, c'est ça qui compte. En tout cas, les gens comprennent pourquoi on fait ça. Et ce n'est pas simplement, si vous me passez l'expression, l'État prédateur qui vient piquer avec ses grandes griffes du pognon aux ménages et aux entreprises.
Benoît Le Guay, vous parlez de l'action des États. La présidentielle en France se tient dans moins de 6 mois. Que préconisez-vous ? À quels signaux vous allez être attentif pendant cette campagne ?
Si on part sur un constat très simple, le constat très simple, c'est que les besoins d'argent public vont augmenter pour la transition. Moi, la question que j'aurais envie de poser à tous les candidats à la présidentielle, c'est finalement, ça sera quoi un petit peu votre stratégie climat des finances publiques ? Quel sera le budget que vous allez consacrer au climat ? Et pour faire quoi ? Sur quel secteur ? Comment est-ce que vous allez réformer les subventions pour peut-être dépenser plus et certainement dépenser mieux, que les subventions soient plus efficaces ? Donc, on compte travailler avec l'ensemble des candidats et donc on espère qu'en 2022, une fois le nouveau locataire installé à l'Élysée, cette personne aura quelques idées puisqu'elle aura travaillé sur son programme. Elle aura déjà une idée très claire de son budget pour le quinquennat et ça permettra d'alimenter le projet de loi de finances 2023.
Une dernière question. Un autre levier peut-être pour agir sur l'environnement, ça peut être une alimentation plus durable. Mais est-ce que le panier moyen restera abordable ? Est-ce que si les politiques publiques deviennent plus intransigeantes, pour le consommateur, ça restera viable ?
La réponse courte est oui, à condition de changer le panier de consommation, c'est-à-dire finalement avoir une alimentation qui soit plus végétale, moins animale. Mais il est tout à fait possible d'avoir une alimentation compatible avec le climat et qui soit, disons, à panier de consommation pas tout à fait équivalent, mais comparable. Après, la question, c'est comment fait-on finalement pour aligner l'ensemble de la chaîne agroalimentaire vers ces objectifs ?
Christian de Pertuis, vous avez entendu Benoît Le Guay et il vous pose presque directement la question, si je puis dire. Vous avez beaucoup étudié les questions agricoles, la transition dans l'agroécologie. On règle ça comment aujourd'hui ?
Alors, je crois que on est en réalité pas du tout au même niveau de maturité sur le volet énergétique et sur le volet agroécologique. Autant aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on est dans une phase d'accélération de la transition énergétique. Ça a été bien rapporté tout à l'heure par les témoignages sur la vallée de Lyon, mais c'est un mouvement qui parcourt tout le système industriel énergétique global. Je rappelle que l'autre composante des émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même l'agriculture et la forêt qui, à elles deux, représentent à peu près le quart des émissions mondiales. Donc il n'y aura pas de neutralité carbone si on n'agit pas aussi sur ce volet agricole et forestier que j'appelle le carbone vivant. Vous voyez, le carbone fossile, ça a été du vivant il y a plusieurs centaines de millions d'années, mais c'est aujourd'hui un concentré d'énergie mort qui est sous nos pieds. Là, on est sur le vivant, et le vivant, c'est toujours beaucoup plus compliqué, puisqu'on est sur l'interaction des êtres vivants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la transition agroécologique ? Ça veut dire qu'il faut agir principalement sur le secteur agricole. Pourquoi ? Parce que le secteur agricole est véritablement le pivot, si vous voulez. C'est le pivot parce que Le premier facteur de la déforestation dans le monde, c'est l'extension des terres pour les usages agricoles ou pour l'élevage. On brûle et on réduit le massif forestier en Amazonie, pas pour le plaisir d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère, mais pour élargir les terres consacrées à l'élevage des bovins, de la culture du soja et les cultures vivrières dans certaines zones de l'Amazonie. C'est pas en mettant des gardes forestiers ou en achetant des produits en bois certifiés bas carbone qu'on va résoudre la question. C'est en agissant sur les systèmes agricoles. Idem en Afrique au sud du Sahara, où la déforestation s'accélère. Idem également dans toute la forêt tropicale de l'arc asiatique.
Et ça, des puits de carbone, hein, on le rappelle peut-être pas assez, qui servent à stocker ce CO2, ce fameux CO2 dont il faut se débarrasser aujourd'hui.
Et peut-être pour les auditeurs, c'est que la neutralité climat. Moi, je préfère le terme neutralité climat au terme neutralité carbone. La neutralité climat, c'est une situation dans laquelle le flux brut de nos émissions qui part vers l'atmosphère va être rigoureusement compensé par le flux qui va quitter l'atmosphère, c'est-à-dire le CO2 qui va être capté et stocké dans les puits de carbone. Et les deux principaux puits de carbone sont l'océan et la biosphère terrestre. Et sur la biosphère terrestre, le principal puits de carbone, c'est les plantes qui stockent le CO2 par la photosynthèse et qui ensuite stockent une partie de ce CO2 dans les sols. Idem dans l'océan, c'est bien la photosynthèse sous-marine via les algues et les phytoplanctons, c'est le même mécanisme. Donc si on n'agit pas pour protéger ces puits de carbone, ce que on va réduire en émissions brutes, on risque de le perdre parce qu'on va réduire la capacité du milieu naturel à stocker le carbone, voyez-vous.
Comment on agit sur les techniques agricoles finalement pour qu'elles puissent stocker ce fameux carbone dans les sols notamment?
De deux façons. Il y a d'abord un point très important, c'est qu'il faut arrêter d'étendre les surfaces agricoles au détriment des massifs forestiers. Et ça veut dire qu'il faut promouvoir des systèmes agricoles alternatifs qui soient intensifs à l'hectare, j'insiste bien. Il faut promouvoir des systèmes écologiquement performants, mais qui sont intensifs à l'hectare, qui vont donner des revenus aux paysans qui sont sur les fronts de déforestation, alternatifs pour cesser de mordre sur la forêt. Ça, c'est le volet déforestation qui contrôle à peu près de 12 à 15% des émissions. Et puis, sur les systèmes agricoles eux-mêmes, vous avez deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est les émissions de méthane et de protoxyde d'azote qui sont liées aux pratiques agricoles actuelles. Sans rentrer dans les détails, des techniques de l'agroécologie qui réduisent l'usage des intrants chimiques, qui vont mieux protéger le sol, assurer le couvert végétal, qui vont réduire la part des ruminants dans les systèmes agricoles, permettent de réduire les émissions de méthane et les émissions de protoxyde d'azote qui sont liées principalement aux engrais azotés. Et puis, on s'aperçoit que ces techniques agroécologiques, elles ont deux rôles importants par rapport au réchauffement climatique. Le premier, c'est que généralement, ces systèmes qui sont beaucoup plus diversifiés sont beaucoup plus résistants aux impacts du réchauffement climatique. Et ça, c'est très important, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, notamment sur les systèmes agricoles vivriers dans les pays en voie de développement, dont on ne parle pas assez, vous avez un risque considérable que l'accentuation du réchauffement climatique et des extrêmes climatiques réduisent les rendements des cultures. Pour devenir plus résilient par rapport aux impacts du réchauffement climatique, l'agroécologie est une technologie qui fait ses preuves, parce qu'elle est beaucoup plus basée sur la diversité du milieu, des écosystèmes, du milieu vivant, et elle est plus résistante au réchauffement climatique que par exemple la sélection de semences à très haute performance que vous poussez artificiellement avec des engrais et des produits de protection des cultures d'origine chimique. Ça, c'est un volet très important. Le deuxième volet, c'est que ces techniques agroécologiques permettent de réduire les émissions liées au système agricole, et elles permettent de beaucoup mieux stocker le CO2 dans les sols agricoles eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que ce qui permet de stocker le carbone dans ces sols, c'est d'avoir du couvert végétal et de la diversité biologique en surface. Et ces techniques agroécologiques génèrent justement beaucoup plus facilement cette diversité du milieu, ces cycles biologiques qui ressourcent le sol en bactéries, en vers de terre, tous ces êtres microbiens dont on oublie l'existence dans notre monde totalement artificialisé, mais et qui jouent un rôle absolument essentiel dans la reproduction de la vie et donc dans la reproduction également des plantes sur les sols. Donc vous voyez que l'agroécologie, c'est véritablement un point très important sur lequel on est beaucoup moins avancé encore que la transition bas carbone dans le système énergétique. Et je pense que ce sera, dans les 10 à 20 prochaines années, l'un des enjeux climatiques qui vont devenir au premier rang des priorités dans le monde, parce que ça concerne le climat, mais ça concerne également la sécurité alimentaire mondiale.
Christian de Pertuis. Oui, excusez-moi, je me permets de vous couper. Christian de Pertuis, dans les pays émergents et en développement, vous le disiez à l'instant, les enjeux sont bien sûr très importants. On vient de le voir avec l'agroécologie. Pourtant, l'investissement dans les énergies vertes recule depuis quelques années et la crise du Covid n'a rien arrangé. On va partir, si vous le voulez bien, près de Dakar, au Sénégal. Théa Olivier s'est rendue à Barni, à 35 km de la capitale sénégalaise, où les habitants se battent depuis plus de 10 ans contre la présence d'une centrale électrique à charbon. Les autorités avaient pourtant promis une centrale à gaz en 2021 qui n'est toujours pas installée. Théa Olivier a rencontré des habitants sur place.
Sur la plage de Barni remplie de déchets, Aziz Faye, pêcheur, nettoie sa pirogue colorée. Au loin, il regarde l'imposante silhouette de la Sokosim, l'une des plus grosses cimenteries d'Afrique de l'Ouest, noyée dans la poussière.
La Sokosim nous tue. À certaines heures de la nuit, tu ne peux pas voir à cause de la poussière qui pénètre dans les yeux. Et cela gâte aussi la mer. Au niveau de la cimenterie, une couche de poussière s'est déposée au fond de la mer. Il n'y a plus aucun poisson.
Medundoy Dimeza est un jeune activiste de Barni. Il s'indigne des impacts de la pollution sur l'environnement et sur la santé de la population.
Moi, j'habite à côté de la cimenterie Sokosim Industries. Mais à chaque fois qu'ils tirent leur mine, et ça fait fissurer nos maisons, des dalles en tombent aussi. À côté, il y a un district sanitaire. 90% qui viennent des malades. Ils souffrent de ce qu'on appelle des maladies pulmonaires. C'est dû à la pollution de la Sokosim Industries. Sokosim devrait se lancer dans la campagne de reboisement pour atténuer un peu la poussière. Malheureusement, ils ne le font pas. J'en interpelle aussi les autorités étatiques. Inviter la Sokosim Industries, la cimenterie, au respect des normes environnementales.
Aux effets néfastes de la cimenterie s'ajoutent ceux de la centrale électrique à charbon contre laquelle les habitants se battent depuis plus de 10 ans. Fumée et gaz toxique, eau usée, lancée depuis 2010. Elle a été à l'arrêt pendant 2 ans avant de reprendre ses activités en août dernier. Avec sa position géographique stratégique, Barni attire de nombreux projets industriels. Ports minéraliers, usines de sidérurgie, de quoi inquiéter Daouda Gueye, président du réseau des associations pour la défense de l'environnement.
On est en train de faire une concentration d'industries, d'infrastructures très polluantes. Ça va être extrêmement dangereux. Les gens ne pourront pas vivre ici, ils ne pourront pas cultiver, ils ne pourront plus, disons, respirer. On a fait des analyses de l'atmosphère qui ont vu que maintenant on est à des pourcentages de poussière fine et qui sont extrêmement dangereux pour la santé. Ils ont dépassé de 400% la norme sénégalaise sur la pollution atmosphérique.
Les activistes critiquent le manque d'impact économique positif de ces projets. Au contraire, selon eux, la centrale à charbon risque même de détruire des emplois. Fatou Samba est la présidente de l'association qui regroupe 1000 femmes transformatrices de produits halieutiques qui travaillent à 500 mètres de l'usine.
Nous, on travaille sur les produits alimentaires et donc une centrale qui va dégager des produits toxiques, nous savons que ça ne va pas de pair. Aussi, il y a les eaux de process de la centrale qui s'est jetée dans le site de transformation en 2020 et a détruit toute notre production. Ces deux installations ne peuvent pas cohabiter. Une centrale à charbon, on ne le construit pas dans une ville. Tout ce qu'on demande, c'est la délocalisation totale de cette centrale-là.
À ces problèmes s'ajoute la montée des eaux. La moitié de la maison de Fatou Samba a été emportée par les vagues.
Et nous, on n'a pas où vivre. Et on n'a pas de moyens pour aller acheter une maison et aller vivre là-bas. Mais nos parents nous avaient donné des terres. Et ces terres-là, c'est l'État qui l'a pris et après revendre à la centrale. Ils s'est installé dessus et on ne nous a pas ni dédommagé ni même informé.
Sinisek de la commission urbanisme et habitat de la mairie veut rassurer. 114 logements sont en construction pour les victimes de l'érosion côtière. Il rappelle aussi le projet de transformer la centrale à charbon en centrale à gaz pour atténuer la pollution.
S'il n'y a pas d'entreprise, je ne vois pas comment les communes pourront s'en sortir et faire face aux besoins, même les plus élémentaires de nos populations. Où est-ce que les gens vont trouver de l'emploi, les jeunes ? Maintenant, il y a des entreprises, industries qui sont là, qui polluent. Nous, notre approche, on a essayé de se rapprocher des dirigeants de ces entreprises-là. Il s'agit maintenant de prendre les décisions, de poser des actes, allant dans le sens de les atténuer. Il y a des efforts qui sont faits, mais ça reste beaucoup quand même. Sur le plan des mines, bon, ils sont en train d'expérimenter d'autres méthodes beaucoup plus modernes, mais on attend toujours. Et sur le plan aussi de la pollution atmosphérique, là aussi, il y a quand même des efforts à faire.
Le ministère de l'Environnement n'a pas de station pour mesurer la pollution de l'air dans la ville. Théa Olivier, de retour de Barny, RFI.
Christian de Pertuis, dans ces pays émergents, le problème de la capacité de développer l'investissement vert est bel et bien là.
Bien sûr, il y a un problème de la capacité dans les pays émergents et encore plus dans les pays moins avancés où il faut accroître les ressources dirigées vers l'investissement vert, tant sur le plan agricole et agroécologique que sur le plan énergétique. Et parfois, c'est très synergétique parce que localement, on peut par exemple développer des systèmes de recherche d'eau via de l'énergie photovoltaïque et ensuite stocker la récolte avec de l'énergie photovoltaïque, toute chose qui va générer des synergies positives entre la transition énergétique bas carbone et la transition agroécologique. Les premiers responsables de cet investissement, c'est évidemment les gouvernements locaux. Et moi, je pense que il faut cesser de se dire que les pays moins avancés vont se développer si les Occidentaux sont capables de transférer les ressources. Donc, les premiers responsables de ce développement, c'est les gouvernements et les acteurs locaux, bien évidemment. Il se pose néanmoins la question de la capacité d'investissement qui renvoie, d'une part, sur le plan financier, au transfert financier indispensable au titre de la solidarité qu'on appelle l'aide publique au développement. De ce point de vue-là, les bonnes intentions qui étaient exprimées lors de l'accord de Paris n'ont pas toutes été respectées. Et pour ma part, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de coupler de la tarification internationale avec de la redistribution massive vers les pays moins avancés. Pour une autre part, ça renvoie beaucoup aussi à la question des transferts de technologie, voyez-vous, car aussi bien l'agroécologie que l'électricité ou l'énergie décarbonée, c'est technologique. Contrairement à une image souvent véhiculée dans les milieux urbains qui connaissent pas beaucoup l'agriculture, on imagine que l'agroécologie, c'est facile, que c'est presque un retour à des techniques traditionnelles du passé. Non, l'agroécologie, c'est beaucoup plus complexe que l'agriculture spécialisée de type productiviste qu'on a développée depuis 40 ans dans nos pays ou dans certains pays en voie de développement via ce qu'on appelait la révolution verte. Et donc ça exige beaucoup d'investissements humains sur les capacités locales des producteurs agricoles à la base. Si vous voulez, c'est ça qui compte. Bon. Pareil sur l'investissement vert. C'est beaucoup plus compliqué de créer des nouvelles filières décentralisées dans les villages en raccordant dans des réseaux locaux des systèmes électriques bas carbone que d'implanter par exemple une centrale à charbon ou une centrale à gaz massive dans la banlieue de Dakar. Mais c'est beaucoup plus payant à moyen terme, beaucoup plus payant pour le climat, mais également beaucoup plus payant pour le développement local.
Christian de Pertuis, une dernière question et je vous demanderai une réponse très rapide. Je voulais vous interroger tout de même sur nos modes de consommation qui semblent être aussi un aspect et un levier important dans cette transition écologique. Est-ce qu'il ne faut pas là repenser tout ce système dans lequel nous sommes et notamment l'hyperconsommation, l'obsolescence programmée, tout ce dont on parle en ce moment ?
C'est une évidence. Nos modèles de consommation, qu'il s'agisse de la consommation alimentaire, de la consommation énergétique, de nos consommations de transport, de nos consommations de biens durables, n'est pas du tout en phase avec la rapidité de la transition bas carbone qu'il nous faut conduire. Il faut donc non pas repenser, mais modifier nos systèmes de consommation. Et ceci aura un coût. Ceci aura un coût, notamment un coût pour l'activité économique.
Merci beaucoup Christian de Pertuis, notre invité cette semaine dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Je rappelle que vous êtes économiste, fondateur de la chaire climat à l'Université Paris-Dauphine. Votre dernier livre, qui est un roman, il faut le souligner, s'intitule « Il voulait refroidir la Terre » et c'est publié chez Libri Nova. Merci aux reporters de la rédaction, à nos correspondants et aux autres intervenants de cette émission. Merci à Nicolas Benita qui a réalisé cette émission. Cette semaine, vous pouvez, comme toutes les semaines, nous podcaster sur notre site internet.
www.rfi.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Twitter. La semaine prochaine, vous retrouvez Bruno Faure, comme à son habitude. D'ici là, très bonne semaine à tous, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Religion.